Europe 1.
Bonjour, je suis Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. Dans ce second épisode, retrouvons Attila, bien décidé à subjuguer l'Empire romain. Seconde partie, noces barbares. L'Empire romain, je l'ai dit, sombrait dans le luxe, l'oisiveté et la débauche. Pour faire face à l'afflux toujours croissant de populations extérieures à l'Empire, l'Église ne proposait que l'esprit de l'Évangile. Rome combattait avec le glaive, les disciples du Christ devaient combattre avec la foi, l'espérance et la charité. De fait, le barbare n'était pas perçu comme un ennemi à vaincre, mais comme une âme à convertir. Comme le dit pertinemment un historien du XIXe, l'Église d'alors préférait une paix sans gloire à une gloire souillée de sang. Ces dispositions angéliques n'étaient pas pour apaiser la convoitise des barbares que les Gaules avaient toujours irrésistiblement attirée. Mais ce n'est pas l'appétit de richesse qui va amener Attila en Gaule. Lui-même, d'ailleurs, n'est pas intéressé par l'or. Il se présente dans les habits les plus simples, mange et boit dans une vaisselle de bois, ce qui ne manque pas de surprendre ses invités. Non, l'appât du gain n'est pas son intérêt premier en franchissant le Rhin. Depuis le commencement des années 450, sa puissance est telle qu'elle fait vaciller l'Empire romain. Lors des entrevues avec l'empereur, Attila se comporte comme un roi avec son sujet. Le jeu des alliances qu'il a forgées ont assis sa position. Plus que jamais, il est l'homme qui, pour la première fois de l'histoire de l'Empire, rivalise avec Rome. Ravenne est alors capitale de l'Empire romain d'Occident. C'est là que va se jouer l'intrigue qui va fournir à Attila le prétexte pour envahir la Gaule. Familier de l'empereur Valentinien III, Attila est aussi proche de sa sœur Honoria, une jeune femme décrite par la chronique comme volcanique. Un amour passionné va naître entre le barbare et la princesse. Si aucun des chroniqueurs de l'époque ne conteste la sincérité des sentiments d'Honoria, il apparaît en revanche clairement qu'Attila a mesuré tout l'intérêt politique d'une alliance avec la sœur de l'empereur. En l'épousant, il peut exiger la moitié de l'Empire en guise de dot. Valentinien, pour neutraliser cette sœur capable de livrer le Saint-Empire à un sauvage, a dû se résoudre à l'enfermer dans un couvent, après avoir congédié Attila. Il en faut plus pour calmer la brûlante Honoria. Depuis son monastère, elle fait envoyer à Attila un anneau, accompagné d'une demande officielle de mariage. Le roi Hun saute sur l'occasion. Il exige de prendre Honoria pour femme et la Gaule pour tribu. Par ce mariage, il peut aussi prétendre accéder à la charge de généralissime des armées de l'Empire, titre détenu jusqu'alors par le Romain Aetius. Ce dernier n'est pas un inconnu pour lui. Ils se sont côtoyés par le passé, ils ont même été liés par des sentiments d'amitié. Mais il ne peut y avoir de magister militum presentalis, il ne peut y avoir de généraux généralissimes des armées de l'Empire. Une fois le mariage contracté, Aetius sera évincé automatiquement au profit d'Attila. En 451, Attila est donc prêt à fondre sur la Gaule. Les chroniqueurs de l'époque parlent d'une armée de 500 000 hommes. Dans son Histoire de France, Guizot a bien montré que ces chiffres sont certainement fantaisistes et doivent être divisés par 10 au moins. Mais ils sont révélateurs de l'impression produite par ces hordes sur les contemporains. Au moment de franchir le Rhin, Attila dispose d'hommes venus de la rive ouest du Danube et de l'actuelle Autriche. Il est aussi suivi d'une troupe importante de soldats venus de Scandinavie, de Skyrès, ville d'origine turque, de Francs, de Celtes, de Hérules. Les Hérules sont venus de la mer d'Azof. Le charisme d'Attila ne fait aucun doute. Pour avoir fédéré cette masse importante de peuplades diverses, dont les chefs constituaient sous son commandement unique une tourbe de rois, comme le dit un chroniqueur. Mais celui que l'histoire a retenu comme une brute sans esprit va dans un premier temps se révéler un fin stratège. Et voilà ce qu'écrit un contemporain.
Les Gaules qu'il va conquérir ne sont plus comme au temps de Julien et de Constantin, réunis en un seul faisceau dans la main puissante des Romains. Envahis au nord, à l'est et au midi, le moment approche où cette riche proie sera devenue tout entière le partage des peuples que Rome admet dans son alliance et qui travaille de concert depuis un siècle à s'enrichir de ses dépouilles. Les Allemands se sont rendus maîtres du cours du Rhin depuis Bâle jusqu'à Mayence, et toute la Germanie supérieure leur appartient. Les Francs, établis depuis 30 ans dans la Germanie inférieure, viennent de pousser leurs avant-postes jusque sur la Somme, réunissant ainsi à cette vaste province la moitié de la seconde Belgique. L'Helvétie, la grande Sécanoise, partie de la première Lyonnaise, sont le partage des Bourguignons. Les Mains occupent le pays des Armoriques et les Visigoths, établis au pied des Pyrénées, règnent paisiblement sur les plus belles et les plus fertiles provinces du Midi. Il est de l'intérêt d'Attila de ménager ces différents peuples publiquement alliés, mais secrètement ennemis des Romains et toujours prêtes à prendre leur part de nouveaux démembrements. Ces premiers coups doivent donc frapper sur les provinces restées fidèles à l'Empire.
En avril 451, Attila a franchi le Rhin avec son armée. Il lui a fallu 6 jours pour faire passer fantassins et cavaliers sur des barges construites sur place. En quelques jours, Trèves tombe, puis Coblence, puis Bâle, puis Colmar. À Metz, le carnage est abominable. Après quelques jours de repos, la horde reprend sa marche dévastatrice. Rien ne semble pouvoir contrarier le projet d'Attila. Mais c'est sans compter sur Aétius, le rival de toujours. Depuis Arles, où il est cantonné, il a appris par une délégation burgonde l'invasion d'Attila. Sans tarder, il va s'appliquer à rassembler toutes les forces dont il peut disposer pour arrêter le chef Hun. Dans cette partie nord de la Gaule, qui va de Metz à Orléans, c'est l'épouvante. Les guerriers d'Attila inspirent la terreur, même quand ils ne se livrent à aucune exaction. Leur simple apparence sème l'effroi. Les cheveux noués en nattes au-dessus de la tête ou sur le côté, ils passent pour des démons sortis de l'enfer. Ceux des chrétiens qui savent lire ont le sentiment de voir les cavaliers de l'Apocalypse. Les chevaux des Huns, plus petits que ceux des Gaulois, sont nerveux, vifs, rapides. Leurs crinières sont peignées et tressées selon des figures géométriques qui ajoutent à la peur qu'ils inspirent. Les cavaliers montent sur des selles en bois ouvragées, sans éperons. Lors des charges, ils sont effrayants à voir avec cette manière impressionnante de se pencher sur l'encolure du cheval pour faire corps avec l'animal tout en bandant leurs arcs. De telles armes d'ailleurs n'ont jamais été vues nulle part. De bois recouverts de cornes et d'or, ils sont conçus pour décocher des flèches qui portent à 150 mètres. Les traits délivrés à 50 mètres seulement peuvent déjà transpercer les meilleures cuirasses. Rien ne distingue Attila de ses soldats, sinon son arme, sa selle et les parures de son cheval. Son arc et le pommeau de sa selle sont recouverts d'or. Sa cuirasse, posée sur une tenue matelassée et recouverte d'écailles, Ces écailles sont censées symboliser les plumes d'un oiseau mythique, Simurgh, qui est investi de pouvoirs magiques contre l'ennemi. Aussi, lorsqu'il approche d'une ville, il n'est pas très étonnant que les potentats locaux renoncent d'emblée au combat. On peut affronter des hommes. On ne se bat pas avec des démons. Le général Aetius, lui, connaît Attila. Il a appris à l'apprécier, ce qui était la seule manière pour apprendre à le combattre. Aetius, à ce moment-là, est une sorte de souverain de la Gaule. Il en est le généralissime. Il a, par le passé, bénéficié de l'aide des Huns pour écraser les Burgondes. Ces ennemis-là se connaissent bien. Mais le temps a passé. Attila a depuis lors interdit à son peuple de combattre aux côtés des Romains. Lorsqu'il apprend l'incursion d'Attila sur son territoire, Aetius n'a d'autre choix que de rassembler autour de lui ses anciens ennemis. Profitant des dissensions qui sont le lot commun de tous ces peuples, aussi disparates qu'indisciplinés, il a réuni à la hâte Francs, Burgondes, Saxons, Bretons, avec un seul but, arrêter Attila. La rencontre des deux géants a lieu le 25 juin 451 dans l'actuelle Champagne, dans un espace défini par Reims, Châlons-en-Champagne et Troyes. Attila, qui s'est jusqu'à présent couvert de gloire, est un peu inquiet. Il consulte les augures, ses prêtres scrutent longuement entrailles et os d'animaux sacrifiés. Tous sont unanimes. Il prévoit un grand malheur pour les Huns. Seul motif de réjouissance, le général en chef qui commanda l'ennemi sera tué sur le champ de bataille. Mais pour l'heure, il faut conjurer le mauvais sort, haranguer et galvaniser les troupes. Attila, monté sur son cheval à la robe argentée, caracole devant ses soldats, rassemblés sur cette plaine qui, 3 mois auparavant, avait touché son cœur par sa beauté.
Détaillez donc les nations disparates qui se sont coalisées. C'est bien la preuve qu'ils ont peur s'ils se défendent en s'alliant. Voici qu'avant même que nous déclenchions notre assaut, ils cèdent à leur frayeur, recherchent les hauteurs, s'emparent de buts et, pris d'un remords tardif, réclament que soient élevés des remparts dans les parties de la plaine.
De fait, les troupes d'Aetius ont pris position sur les collines avoisinantes. Le signal de l'attaque est donné. Les cavaliers Huns lancent leurs chevaux sur les pentes que dominent leurs ennemis. Ces guerriers ont dressé leurs murs de boucliers, redoutablement efficaces pour stopper un assaut. Le combat va durer toute la nuit. Au petit matin, le fleuve qui coupe le champ de bataille est, rapporte-t-on, tellement gorgé de sang qu'il a débordé sur les champs alentours. Les cadavres jonchent la plaine. Le chroniqueur Jordanius avance le chiffre de 165 000 morts pour les deux camps. Le roi Théodoric, allié d'Aetius, a perdu la vie dans le combat, confirmant le présage. Attila s'est retranché avec les siens derrière son camp de chariots. Il redoute une débâcle de son armée. Il fait dresser un bûcher avec les selles de chevaux prises aux carcasses qui pourrissent sous le soleil d'été, résolu à s'y jeter lui-même si les ennemis forcent son camp. Il n'en sera rien. Car contre toute attente, Aetius lève le camp. À la faveur de cet événement imprévu, Attila retrouve immédiatement cette morgue qui était la sienne lors de ses succès militaires.
Mais après qu'un long silence a succédé à la disparition des ennemis, il se bâtit un moral de vainqueur, trouve motif à se réjouir et son caractère de roi puissant le conduit à reprendre le fil de son ancienne destinée.
La cavalcade infernale du plus redoutable des barbares durera encore 2 ans. En Gaule, on attribue à Geneviève le miracle qu'a constitué le départ d'Attila, quand tout portait à croire qu'il se rendrait facilement le maître incontesté de cette partie si convoitée de l'Empire. Le terrible chef barbare aura pourtant une fin bien différente de celle qu'il avait espérée. Ayant pris une énième épouse, nommée Ildiko, la mort le surprend la nuit de ses noces.
Au cours de ses noces, il se laissa aller à une gaieté excessive, et abruti par le vin et le sommeil, il était couché avec la tête renversée en arrière. Son sang, trop abondant, qui, d'habitude, s'écoulait par ses narines, ne put emprunter la voie habituelle et, prenant un chemin fatal, passa par sa gorge, ce qui le tua. Ainsi, à ce roi que les guerres avaient couvert de gloire, l'ivresse réserva un honteux trépas.
C'est la fin de ce double épisode consacré au destin d'Attila. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai et je vous répondrai. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Au cœur de l'histoire est une création originale Europe 1 Studio. L'épisode que vous venez d'entendre a été imaginé avec Jean-Louis Bachelet. La réalisation est signée Xavier Joly. Et si vous voulez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. À très bientôt.